Le matin, Café Grégo sur News FM.
On est ensemble et on a nos invités aujourd'hui. Nous allons parler de quoi ? Nous allons parler du Conseil de développement agitateur d'idées. C'est une instance participative métropolitaine qui s'inscrit dans le temps long. Il y a plusieurs projets et il y a plusieurs axes où il va y avoir des groupes de travail. On va savoir un peu ce que c'est tout ça. J'ai deux invités pour en parler avec moi qui sont pilotes du groupe Forêt. Il s'agit de Pauline Allègre, bonjour.
Bonjour.
Et il s'agit de Marc Baglietto, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. Merci de nous rejoindre autour de cette table pour nous parler un peu du conseil de développement et de ce groupe Forêt. Est-ce qu'on peut rappeler déjà ce que c'est le conseil de développement, depuis quand il existe et quelle est sa valeur, son objectif?
C'est difficile de refaire toute l'histoire de ce que sont les conseils de développement. Ça a été créé par la loi, c'est une obligation pour les instances intercommunales au-delà d'un certain seuil de disposer d'un conseil de développement. Il est composé de citoyens volontaires qui essayent de réfléchir sur l'ensemble des questions qu'il choisit ou qu'on lui demande de traiter, l'ensemble des questions qui concernent le quotidien des habitants d'une agglomération.
D'accord. Très bien. Oh, mais c'est très bien dit. C'est très synthétique, c'est parfait. Et donc, il y a plusieurs groupes. J'ai dit que vous étiez les pilotes du groupe Forêt. On va y venir plus précisément après. Il y a d'autres groupes. Est-ce que vous pouvez nous donner les autres groupes?
Oui, donc les 66 membres actuellement sont répartis. Donc la mission Visil qui a démarré dès le avril 2022 au lancement donc de notre mandat du C2D. Et maintenant il y a aussi le groupe donc Forêt auquel on appartient, la mission RER Mobilité Rêvée et l'appartenance métropolitaine.
Très bien. Ça fait pas mal de sujets très importants, j'ai l'impression, qui évoquent beaucoup d'enjeux. Donc vous, le groupe Forêt, voilà. Donc sur toute l'agglomération, parce que là, tu nous as dit, il y a une spéciale Visil.
Oui, là, parce que le conseil métropolitain nous avait lancé la mission de travailler sur Visil demain, ou je ne sais plus l'intitulé exactement.
Ouais.
Et ouais, c'était une mission imposée au lancement du C2D. Mais après, le C2D est libre de choisir d'autres missions. Donc là, pour l'instant, la mission Visil est encore en cours, mais nous, on apporte des nouvelles idées aux axes de travail. Ouais.
D'accord. Alors, justement, quand on parle de forêt dans une agglomération comme la nôtre, on sait qu'elle est assez verte quand même. Mais alors, sur quoi le conseil de développement va axer ses travaux, on va dire, ses réflexions? Une forêt en métropole. Bon.
La forêt, c'est 57%, je ne dis pas de bêtises, du territoire métropolitain, ce qui fait de la métropole grenobloise la métropole la plus forestière de France. Et il nous semble qu'il y a là un enjeu à la fois pour les habitants, puisqu'on a à notre disposition cet immense espace pour respirer, se détendre. Et en même temps, il y a des enjeux économiques qu'on connaît bien, à la fois tout ce qui est le bois construction, le bois énergie, mais pas que, il y a d'autres éléments plus, sans doute plus importants, faire connaître la forêt, amener les habitants à s'approprier cet espace. Je me souviens d'une étude, d'une recherche qu'on avait faite au moment où on travaillait sur un projet qui n'a pas abouti, mais qui était de créer un espace pour le ski nordique au col de Porte. Et l'enquête montrait que plus des deux tiers des habitants de la métropole n'allaient jamais en montagne. Et nous pensons que, à peu de choses près, la fréquentation de la forêt doit être du même ordre. Donc il y a à découvrir cet espace. Et le découvrir, c'est le respecter, c'est l'entretenir, c'est le valoriser. C'est à la fois une ressource inestimable en termes de biodiversité, en termes de lutte contre le gaz carbonique. Mais si on la néglige, je pense qu'on risque d'avoir des retours de bâton un peu sévères dans les années qui viennent.
Donc il y a vraiment un côté préserver la forêt, protéger aussi la forêt. C'est un axe qui est assez important, j'imagine. Donc ça va passer... par quoi vous allez passer? Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place pour ça? Est-ce qu'il y a du concret tout de suite ou pour l'instant c'est déjà des réflexions?
Nous sommes force de proposition et non pas décideurs. Donc nous faisons des propositions au Conseil métropolitain, qu'il les prend ou qu'il les prend pas, ça c'est sa liberté, c'est lui qui décide, c'est lui qui est l'acteur. Donc pour l'instant, nous essayons de travailler sur des pistes pour faire des propositions. Il y en a 4 aujourd'hui que nous avons retenues. La première qui nous paraît la plus importante, c'est la formation. Comprendre, connaître, faire découvrir. Deuxième piste de travail, c'est ce qu'on a appelé le Parlement de la forêt, collaborer, faire en sorte que les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de la forêt se parlent, se rencontrent, agissent ensemble, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Le troisième axe, c'est préserver, comment faire en sorte que cette forêt continue à vivre, et ça passe, entre autres, c'est un des points qui nous est apparu lors des entretiens que nous avons eus avec les différents acteurs, c'est celui des métiers de la forêt. Actuellement, la directrice territoriale de l'ONF, Madame Maud-Gironde, nous disait que l'ensemble des entreprises qui travaillent dans la forêt vieillissent. Et donc, s'il n'y a pas un effort vigoureux pour former les nouveaux acteurs de cette forêt, on risque demain de se retrouver un peu dans la panade. Et puis le quatrième axe de travail que nous nous sommes donné, c'est la collaboration aux forêts, si on peut dire. Comment la forêt est une source pour pour l'eau, puisque non seulement il y a des captages en forêt, mais c'est aussi, les scientifiques le montrent, un des lieux où se forme notre réserve d'eau.
Très bien, très clair.
Qu'est-ce que j'ai oublié ?
Tu n'as rien oublié.
Alors, du coup, ça fait quatre axes très très précis et sur lesquels, ben voilà, il y a du travail. Pauline, tu voulais rajouter quelque chose ? Non ?
Ces axes que nous on a identifiés, donc après avoir échangé avec des acteurs du territoire et avoir fait une marche sensible, donc avec Maud-Gironde à la forêt de Séchilienne. Il croise en fait avec la délibération qui a été faite vendredi par le Conseil métropolitain. Donc voilà, ça se rejoint. C'est Cyril Plénet, la vice-présidente en charge de la forêt, agriculture, je ne sais plus exactement tout l'intitulé, voilà, mais bon, celle qui représente la forêt pour nous au Conseil métropolitain, voilà, qui a rappelé lors de cette délibération nos axes et voilà, à quel point c'est. Notre vision croise aussi avec la vision que les conseillers peuvent avoir. Et, enfin, c'est de bon augure pour nos travaux.
C'est précieux ce don qui nous est fait d'avoir 57% de forêt, je trouve. On est très chanceux pour ça. Beaucoup de pression pour vous parce que c'est j'imagine quand même les enjeux qui sont liés à la forêt, vous venez de le rappeler Marc Baietto, entre ben voilà, il faut la connaître, il faut la préserver, il y a le lien avec l'eau aussi. Pas trop de pression sur un tel sujet, j'ai envie de dire.
Oui, de la pression quand même. Tout le monde a un lien avec la forêt, tout le monde a son idée personnel de la forêt, c'est dur de faire avec les représentations de chacun, correspondre un peu à tout ça. Après, nous, les 57% du territoire, c'est aussi permis par les pentes. En fait, les forêts sont beaucoup en pente, donc en fait, elles sont protégées par le relief.
Ouais.
Ça a limité l'étalement urbain des villes et en fait, c'est une force pour qu'elles soient protégées,
ouais.
qu'elles soient en pente. Même temps, ça rend plus difficile d'y travailler, de les exploiter, d'en faire quelque chose. Donc voilà, il faut faire avec le terrain, ressources et en même temps difficultés, avec les représentations de chacun. c'est un gros challenge.
Gros challenge. Les professionnels de forêt, je vais dire ça comme ça pour reprendre le petit terme qui a été dit, vous êtes en lien donc avec eux, il y avait des moments d'écoute, des moments de discussion, tout ça. Et vous disiez qu'il y en avait de moins en moins, Marc.
C'est l'une des difficultés que rencontre aujourd'hui ce qu'on appelle l'exploitation forestière. Ouais. Une forêt ne vit que si on la cultive. Le fantasme de la forêt qui va vivre toute seule, qui va se développer sans problème.
C'est un fantasme, ça vous dites ?
Oui, parce que si on n'intervient pas, on prend aujourd'hui la question liée, pour prendre un exemple, au réchauffement climatique, à la disparition d'un certain nombre d'espèces qui sont menacées. Si on n'est pas là pour veiller à son développement, pour l'accompagner, pour lutter contre les différents éléments qui sont hostiles à la forêt. Je parlais du réchauffement climatique, on peut parler des animaux sauvages, entre guillemets, qui sont friands de toutes les jeunes pousses et qui ne permettent pas forcément le renouvellement de cette forêt. Là, on est allé voir, lors de la marche sensible, une parcelle où l'ONF replante des espèces dont on pense qu'elles résisteront au réchauffement. Mais pour protéger ces nouvelles pousses, il faut les entourer de grilles. Sinon, l'ensemble des animaux, notamment les cervidés, viendront se régaler de toutes ces jeunes pousses. Donc ce serait un travail qui serait fait de manière perdue. Donc, il y en a besoin de professionnels, de gens connaissant la forêt. Et pour que les gens qui connaissent la forêt puissent agir, il faut aussi que le citoyen derrière le lui permette. L'abattage d'un arbre est toujours mal perçu aujourd'hui. On a une sorte de vision un peu idyllique d'une forêt qui vivrait par elle-même, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il y en a l'une des difficultés majeures dans tout ce qui est l'entretien de la forêt, c'est aujourd'hui, d'après ce que nous ont dit les différents partenaires, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire comment nous réagissons devant ce qui est l'entretien de la forêt, comment nous connaissons à minima ce qui se passe pour éviter de s'opposer de façon un peu irrationnelle à ce qui est nécessaire pour la vie de la forêt.
Donc, en gros, c'est de nous dont on doit se méfier pour prendre soin de la forêt. C'est bien ça, parce qu'une forêt, je veux bien entendre que ça se fait pas tout seul, mais la forêt, quelque part, a jamais eu besoin de nous pour être, pour se renouveler, pour vivre, pour se développer, pour se renouveler dans les espèces, les jeunes pousses, tout ça. Mais c'est parce que c'est nous la menace, en fait, plus ou moins.
D'une certaine manière, oui, on peut le dire. Ouais. Nous sommes à la fois une menace et...
Et la solution.
Et la solution à la vie de la forêt, quoi.
Ouais, bien sûr. Non, mais ça m'interpellait parce que je me dis, mais la nature, elle est là, elle fait, elle a toujours été là, elle n'a pas besoin de nous. Mais là, on est venu à un point où elle a besoin de nous maintenant. Il faut être vigilant, quoi.
C'est vrai qu'avec les échanges qu'on a eus avec tous les acteurs, et puis notamment avec Maud Giron de l'ONF, ça fait un peu bizarre à la fibre écolo qu'on peut avoir de dire, il faut qu'on intervienne sur la forêt pour l'aider, on ne peut pas la laisser... seul, les premiers échanges, moi, me choquaient beaucoup sur la nécessité qu'on intervienne. Et puis, en fait, oui, tous les acteurs défendent ça, qu'il faut jardiner la forêt pour arriver à la faire perdurer, en fait. Et puis, surtout, maintenant, à s'adapter au changement climatique, qu'on a quand même largement causé. Mmh. On a besoin de nous s'investir pour permettre, en fait, à une forêt de rester... en bonne santé, quoi.
Et un petit volet qui me vient en tête d'un coup, parce que il y a peut-être des petites tensions dans la tête des gens et tout. Qu'en est-il des chasseurs avec la forêt ? Est-ce que vous discutez avec eux? Est-ce qu'ils prennent part à tout ça? Est-ce que je sais que toujours, pas toujours une bonne vision, ils n'ont pas très bonne presse depuis quelques temps, les chasseurs, mais...
Nous, on ne veut pas rentrer dans des polémiques.
Bien sûr, mais je me dis dans,
que ce soit, mais en fait,
dans le travail en commun, en fait.
Oui, voilà. Que... Dans notre axe de travail sur la création d'un parlement de la forêt, bien sûr, les chasseurs sont des acteurs de la forêt et on ne peut pas les laisser de côté. Donc, on a un membre du groupe qui a déjà... évoquer la question avec eux et on va les contacter, les rencontrer. On veut planifier une rencontre voilà, pour échanger sur toutes nos problématiques, nos questions. Eux, avoir leur vision de la forêt et de tous les enjeux. Et voilà, de construire quelque chose où ils se sentent aussi inclus. Et voilà. Notre but, c'est que le Parlement, ce soit un espace de dialogue entre tous les acteurs. Donc, il faut qu'ils puissent y participer, qu'ils soient volontaires.
Partager la forêt pour en prendre soin au mieux. Au mieux possible. Les marches sensibles, parlez-nous de ces marches sensibles. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on y trouve dans les marches sensibles?
Alors ça, c'est une idée qui est née des acteurs, de ceux qui... Il y a un groupe marche sensible, dans les groupes qu'on a cités, on n'avait pas... L'idée, c'est de sortir le nez des livres, du papier, et d'aller voir sur le terrain comment les choses se passent. Un exemple simple, nos collègues qui travaillent sur le réseau rêvé de mobilité de l'agglomération ont fait une marche sensible. Ils sont partis un soir et ils ont pris le train dans les différentes directions de l'Y Grenoble, qui n'est plus tout à fait un Y, mais enfin, peu importe. Et ils ont rencontré des usagers du train et se sont rendus compte des réelles difficultés que rencontre un usager dans le train. Donc, ça nous aide à sortir d'une vision purement abstraite, théorique, du sujet que nous traitons, pour lui donner cette dimension sensible, c'est pour ça d'où le nom des marches, cette dimension qui fait que derrière chaque mot, on met une représentation de ce qui est vécu. Et ça, c'est un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est très théoricien et on n'est pas assez praticien. Et souvent, il y a cet écart qui se creuse entre ceux qui doivent prendre des décisions, mais qui les prennent plus de manière théorique que pratique, et puis ceux qui vivent tous les jours, au quotidien, les difficultés sur tel ou tel sujet. D'où la nécessité que nous avons éprouvée de faire ces marches sensibles. Et donc, elle touche différents domaines.
Oui.
Très bien. Pardon, Pauline, excuse-moi.
Oui, en fait, les marches sensibles, c'est un peu une méthode de travail que donc notre C2D a mis en place pour découvrir une thématique sur un territoire spécifique, enfin toute la métro ou une petite zone plus précise. Ça peut donner lieu donc à des groupes de travail ensuite. Donc comme nous, la forêt, c'était déjà créé le groupe de travail, mais pour les mobilités rêvées, ça a lancé après le groupe de travail. Et tous les podcasts, enfin toutes les marches sensibles qu'on fait sont écoutables en podcast sur le site du C2D et sur Deezer.
Oui, tout à fait. Et sur Deezer aussi, la classe, le C2D, le C2D à la classe. Est-ce que y a des rendez-vous, je ne sais pas, pour les gens, pour vous connaître peut-être, pour en savoir un peu plus sur ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des rendez-vous prévus ou des lieux où on peut venir discuter avec vous de l'avancement des choses?
Le site, c'est le moyen où on communique sur ce qu'on fait, nos travaux, sur l'actualité. Il y a aussi notre page LinkedIn. Après, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place, il me semble, de grandes rencontres avec les habitants. Mm-hmm. Mais souvent, c'est un souhait qui revient quand on se rencontre en plénière à tous les membres du C2D. On veut essayer d'ouvrir, de faire participer les habitants de la métropole à nos travaux, nous rencontrer, échanger plus régulièrement. Après, pour la mission Visil, il y a eu beaucoup d'échanges avec les habitants, beaucoup de rencontres, de retours. Je pense que la mission Visil, c'est celle qui a le plus travaillé avec les habitants pour construire leur rendu et maintenant pour faire part de leur travail. Il y a des soirées, forums, spectacles. Je n'ai pas participé à la mission Visil, alors c'est dur un peu de donner du détail. Je pense qu'ils vont venir à la radio un autre moment, mais voilà, c'est mais la mission qui a le plus communiqué avec les habitants.
Et je crois que c'est un peu un mythe pour moi de rencontrer les habitants. En fait, chaque fois, on se dit nos travaux, ce qu'on fait, comment nos concitoyens le connaissent. Et c'est depuis toujours quoi, la volonté de partager, mais avec qui ? Pauline parlait de la mission Visil. Ça a été, de notre point de vue, un succès. C'est un succès parce qu'on a pu impliquer les écoles, donc les parents des enfants qui avaient travaillé. On a impliqué le monde associatif. Mais finalement, quand on fait un bilan, qu'on globalise les personnes que nous avons rencontrées, si on admet que chaque personne peut, par son réseau de proximité, toucher 3 ou 4 ou 5 personnes, finalement, sur une ville comme Visil, on a touché une petite partie de la population. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui de la diffusion de nos travaux, la diffusion de nos idées. Alors, elles ne sont pas forcément les meilleures et les seules. Mais comment le faire partager ? Et ça, nous sommes là et nous en remercions, parce que vous êtes un des vecteurs de ce partage. Mais ça va toucher vos auditeurs. Au-delà, comment on touche ceux qui ne sont pas auditeurs de News FM, ceux qui ne sont pas spectateurs d'un spectacle monté pour leur présenter nos travaux ? C'est une question excessivement difficile. Et pourtant, si on veut qu'il y ait une vraie démocratie, il faudrait qu'on puisse partager avec le plus grand nombre possible ce que nous proposons. Alors, encore une fois, c'est nous qui le proposons, c'est pas forcément la seule manière de le faire, mais c'est un vrai sujet. Comment faire que le citoyen le plus éloigné de la chose publique puisse un jour se dire « je peux rentrer dans ces questions qui me touchent au quotidien et sur lesquelles je peux, si j'y rentre, avoir un tout petit peu de poids pour les faire évoluer. »
Donc les médias sont là aussi pour ça, pour relayer tout ça. Et puis si vous nous écoutez, les amis, déjà le site C2D, Grenoble, Alpes Métropole, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour les connaître. Et puis, bien sûr, parlez-en autour de vous, tout simplement. Si là, vous êtes en train de nous écouter, c'est aussi du bouche à oreille des fois. Et bon, allez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous voudriez, il nous reste deux petites minutes, je vous laisse aborder le sujet que vous voulez ou passer le message que vous voulez dans ces deux dernières minutes, Marc Baglietto et Pauline Allègre, du pilote du groupe Forêt au Conseil de développement.
Je veux juste dire aux gens qui peuvent aussi s'impliquer comme nous, on s'implique dans le conseil de développement quand il y aura un renouvellement des membres donc en avril 2025. Tout le monde peut candidater et en fait ça marche beaucoup par le bouche à oreille. Plein de gens qui sont membres actuellement ne connaissaient pas le C2D juste avant. Donc c'est des collègues, des amis qui leur ont conseillé de candidater. Voilà, c'est une expérience chouette de réfléchir un peu à tout ce qui nous touche, donc voilà.
J'ajouterais le besoin de diversité. Comme toujours, lorsqu'on fait appel à la participation, ouais, on est quand même un peu tous issus globalement des mêmes milieux intellectuels, de formation. Donc, un appel à tous ceux qui pensent ne pas être capables de participer et qui en ont toutes les compétences dès lors qu'ils sont simplement habitants et citoyens dans cette agglomération.
J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux, Marc. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir
Merci
été présents
Merci
avec nous. Et puis, on va se revoir régulièrement avec le conseil de développement sur l'antenne de News FM. Et voilà, on vous tiendra aussi, auditrices, auditeurs, un peu informés de ce qui avance, de comment ça se passe. Voilà, sans souci. Merci beaucoup, Marc Baglietto, je rappelle, pilote du groupe Forêt au conseil de développement, et Pauline Allègre, également pilote du groupe Forêt. Merci à tous les deux, bonne journée.
Merci, bonne journée.